La vie est un art.
Troisième émission avec vous, Paul Devendre, sur Hommes et femmes mode emploi, un livre que vous venez de faire paraître donc aux éditions Lafon. Mais on sait aussi combien vous avez fait de spectacles, vous avez écrit d'autres livres aussi, on peut trouver aussi vos DVD. Et depuis des années et des années, vous avez dû rencontrer énormément de couples, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de couples. Qu'est-ce qui vous touche le plus ?
Ce qui me touche le plus, c'est quand ils se mettent à parler entre eux. Après, justement, après les spectacles, c'est déjà quand je les vois dans la salle en train de se prendre petit à petit par la main, de donner des petits coups de coude, de commencer à rigoler. Ou parfois, il y en a qui viennent, qui sont très tendus, parce qu'on voit bien que ça ne va pas très bien entre eux. Et puis que souvent, c'est la femme a essayé de faire lire un bouquin, il n'a pas voulu le lire, il a envie de voir un psy, il ne voulait pas. Et puis un spectacle, il n'a pas pu dire non, donc il arrive. Et puis petit à petit, on les voit se détendre. Au début, elle est inquiète, elle se tourne un peu vers lui, et puis il est un peu fermé, plus ou moins. Et puis parfois, souvent, il s'ouvre, heureusement, et c'est chouette. Et puis ils se prennent par la main et tout ça, et puis on voit que petit à petit il y a des choses, des messages qui passent, parce que fondamentalement on a envie d'être ensemble. Quand on démarre une histoire d'amour, on a envie qu'elle soit la plus belle et la plus longue possible. Alors c'est pas toujours possible, mais ça reste fondamentalement quelque chose qui est partagé par beaucoup. Et donc de voir justement cette évolution, cette acceptation de l'autre, de comprendre que c'est pas juste lui ou elle qui fonctionne comme ça, mais que c'est juste un mec, quoi. Et déjà de pouvoir, c'est déjà simplement avoir ce petit réflexe là de dire que c'est pas, il fait pas ça pour m'embêter, oui, il fait pas ça pour, ou parce qu'elle est pas intelligente, ou parce qu'il est pas ci, ou parce qu'il est pas là. En fait, les vrais problèmes dans un couple, à mon avis, c'est pas ce qui se passe, et surtout c'est l'interprétation qu'on va donner à ce qui s'est passé. Et l'interprétation, souvent, on va accuser l'autre qui n'est pas assez attentionné, qui est trop ci, qui est trop là. Alors que si on comprend parfois, mais non, c'est pas pour ça, c'est simplement parce qu'il est différent, c'est tout. Mais ça permet peut-être déjà d'amorcer le dialogue autrement, d'être peut-être un peu plus indulgent vis-à-vis de l'autre. Et c'est ça qui me touche le plus.
Et qu'est-ce que vous disent les hommes ?
Et les hommes, justement, ils adorent me dire, tiens, maintenant j'ai compris des choses. Ils parlent moins déjà, aussi, mais globalement, en fait, avoir le décodeur de comprendre justement le besoin émotionnel féminin de partager son ressenti. Ils sont soulagés aussi à un moment donné, parce que très souvent, les hommes font l'erreur de penser que quand une femme partage son ressenti, ils doivent apporter une solution. Quand ils comprennent que non, elle a juste besoin à ce moment-là d'une écoute empathique et bienveillante, que c'est pas une critique qu'elle est en train de leur faire, que c'est pas du tout qu'ils veulent, veut pas régler son compte ou quoi, c'est juste, elle a juste besoin d'exprimer de lâcher un trop-plein émotionnel qu'elle a accumulé au cours de la journée. Et comprendre ce truc tout bête, mais ça peut changer beaucoup de choses. Donc ils sont très contents, très curieux de comprendre un petit peu des choses qu'ils ne comprenaient pas auparavant.
Dans ce que vous dites, vous parlez d'empathie, de bienveillance, il y a beaucoup d'humour aussi dans votre spectacle, et vous-même, on vous sent vraiment dans l'empathie, la bienveillance. Pour vous, c'est important ?
Oui, j'ai le sentiment vraiment que c'est chouette de comprendre l'autre pour mieux le respecter. Quand on comprend pas, on ne sait pas comment fonctionner. Quand on comprend mieux, quand on est bilingue, quand on comprend ces fonctionnements-là différents et tout, c'est sympa, oui.
Vous n'avez pas l'impression un peu de les bousculer un peu trop, ces hommes-là qui sont dans les spectacles ?
Non, justement, parce que c'est ça la limite du spectacle aussi, c'est qu'on reste quand même un peu en surface, justement. Je caricature un peu aussi et tout, pour amener un peu des effets comiques et tout. Donc, je sais qu'un spectacle n'a pas la force d'une conférence ou d'une conversation plus sérieuse. Avant, je fais encore de temps en temps, mais des conférences en entreprise ou des week-ends, là où on va vraiment en profondeur, on en parlait déjà aussi, mais sur l'estime de soi, des choses comme ça. Et donc là, mais en spectacle, ça passe pas. Mais donc, je reste un petit peu en surface. Et donc, c'est là où c'est chouette, parce que justement, j'ai envie que les gens prennent ceux qui sont prêts à prendre. Alors, il y en a qui rient, et puis le lendemain, ils auront tout oublié, et puis ça repartira comme avant, sûrement. Mais je sais aussi, j'ai plein de témoignages des gens qui me disent, ça a complètement changé notre manière de voir les choses, parce que parfois une petite compréhension, à un moment donné, on amène 2-3 clés, et puis ça permet de repartir du bon pied.
Je vous propose de découvrir l'une de ces clés, l'art de demander. Donc nous écoutons ensemble un extrait de l'un de vos spectacles.
En féminin, on l'a vu, on est naturellement attentif aux autres et à leurs besoins. Il est donc tout à fait légitime, et même très bien vu en féminin, de proposer son aide de manière spontanée dès qu'on pense que quelqu'un pourrait en avoir besoin. Est-ce que tu veux que je t'aide ? C'est très gentil de me proposer. Oh, merci beaucoup, ça fait tellement plaisir. En féminin, c'est tout le temps comme ça. Alors qu'en masculin, de nouveau, évidemment, c'est l'inverse. En masculin, chacun essaie d'abord de se débrouiller tout seul. Donc en masculin, c'est très impoli de proposer son aide à quelqu'un qui ne demande rien. En masculin, attendre qu'on nous demande, c'est plutôt une forme de respect. C'est pas de la paresse, mesdames, c'est du respect. Ne pas vider la vaisselle, c'est du respect. Les femmes disent, Mais il voit bien que j'aurais besoin de ça et ça. Pourquoi il ne le fait pas de lui-même? Pourquoi il ne le propose pas? Pourquoi il ne fait que les trucs qui l'intéressent lui, ce sale égoïste? Et les hommes de Dieu? Ben, si j'ai besoin de quelque chose, ben, t'as qu'à me le demander. Tiens, Dali, quand tu demandes quelque chose, généralement, comment tu fais? Tu demandes, est-ce que tu peux vider de la vaisselle? Est-ce que tu peux aller faire les courses? Comme ça, oui.
Oui, ben, il peut. Hein, tu peux. Hein, il peut. Il le dit, il peut.
Mais il ne le fera pas.
RCF, Bénédicte Draillard.
Paul de Vendre, nous venons d'écouter un extrait donc d'un de vos spectacles. Vous avez donné une clé, la clé de l'art de demander. Est-ce que j'oserais vous poser une autre question un petit peu délicate? Y a-t-il une clé sur les questions sexuelles?
Ah, quelques clés là-dessus, oui, mais c'est vrai qu'on est très très différents dans ce domaine-là aussi. Hein. Par exemple, c'est vrai que le féminin veut régler les problèmes avant de faire l'amour, alors que le masculin, lui, veut faire l'amour pour régler les problèmes. Elle a plutôt besoin d'être détendue pour avoir envie de faire l'amour, alors que lui veut faire l'amour pour se détendre. Donc on voit à quel point on peut parfois être effectivement différent là-dedans. Mais je crois qu'il y a, au-delà de l'aspect physique, il y a quelque chose qui est important aussi pour une femme de comprendre que quand un homme a envie de faire l'amour, quand je parle d'une relation stable, hein, où on est en couple tous les deux, je ne parle pas d'aventure sur les sites, etc. Mais quand on est dans ce type de relation-là, quand un homme a envie de faire l'amour, ce n'est pas que physique non plus. En fait, il y a une demande de rapprochement émotionnel, mais qui passe par la relation sexuelle. En fait, la relation physique ouvre la porte vers l'ouverture, vers son côté émotionnel. Et donc, ça peut être important pour une femme de percevoir ça. Ça peut être difficile pour un homme de donner le meilleur de lui-même dans la relation s'il est frustré par rapport à cet aspect-là. Mais à l'inverse, il faut de la même manière qu'un homme comprenne que justement, c'est pour une femme, le féminin, c'est le fait de ressentir des sentiments amoureux qui va l'ouvrir à son envie sexuelle. Et c'est là où on parlait de petites attentions, l'importance des petites attentions, de la compréhension au quotidien. Donc, quand une femme est nourrie dans la relation au quotidien, tous les jours, quand elle se sent unique aux yeux de son prince, au quotidien, quand elle se sent respectée, quand elle se sent aimée, eh bien là, les sentiments amoureux sont présents et donc l'envie sexuelle sera présente. Donc, un truc que j'aime bien dire aux hommes, c'est que sortir la poubelle, ça fait partie de la relation sexuelle quand même.
Et en même temps, on sait bien aussi qu'un couple, ce n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a souvent aussi des conflits au quotidien et de la fatigue aussi, tout simplement.
Oui, et c'est là tout un équilibre, d'où l'importance pour moi de comprendre justement ces mécanismes. C'est qu'on passe déjà moins de temps ensemble, on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. Si le peu de temps qu'on passe ensemble, c'est à se chamailler, à se disputer parce qu'on n'a pas compris les besoins de l'autre, ça devient un enfer. Et c'est là, à mon avis, la clé à comprendre dans une relation, c'est qu'on ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons. Le masculin se sent aimé quand il a de la confiance, quand il a de l'acceptation et de l'appréciation. Le féminin se sent aimé quand il a des petites attentions, de la compréhension et de la prévenance. Et l'erreur qu'on va faire souvent, c'est qu'on va donner ce qu'on aimerait recevoir, alors que justement, il faut apprendre à donner à l'autre ce dont il ou elle a besoin pour se sentir aimé. Quand on parvient à donner ça, bon, on gagne du temps. Et justement, alors là, on a du temps, on a de l'énergie pour partager des nouveaux projets, pour justement être ensemble dans l'éducation des enfants, pour être présent dans des choses qui nous font plaisir plutôt que d'être complètement frustré parce qu'on n'a pas ce dont on a besoin dans un couple.
L'éducation des enfants, ça peut être un haut lieu aussi de conflit?
Oui. Oui, parce que de nouveau, on vient chacun avec notre vécu, notre parcours, nos blessures d'enfance. Et tout ça rejoue, évidemment, quand les enfants arrivent. Ben, tout ça nous remonte à la figure, à la vitesse grand V. Et c'est là, à mon avis, où ce qui est fondamental, justement, dans toute cette gestion-là, c'est de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. D'être capable, en fait, moi, je nous compare tous un petit peu comme une orange. Parce que quand on presse une orange, le jus sort de l'orange. Hein. C'est pas celui qui presse qui met le jus dans l'orange. Le jus est déjà là et quand on presse, le jus sort, s'il y a du jus. Eh bien, toutes nos blessures d'enfance, c'est ça. On a chacun en soi toute une série de blessures d'enfance, de peur, de nos limites. Et quand notre enfant, par exemple, fait une bêtise ou notre conjoint, ben, il presse l'orange. Mais le jus, c'est nous qui l'avons en nous. Et à un moment donné, plutôt que de mettre la responsabilité sur l'autre, c'est important de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. En fait, c'est pas l'autre qui m'a mis en colère, c'est moi qui me suis mis en colère. Et pourquoi? Ben justement, souvent, c'est pas par rapport à ce qui s'est passé, c'est par rapport à l'interprétation que je vais donner par rapport à ce qui s'est passé. Et ça va nous ramène souvent à des blessures un petit peu anciennes. Et donc, c'est important de prendre cette responsabilité-là.
Là, vous parlez aussi bien du conjoint que des enfants.
Des enfants, tout à
c'est
fait.
C'est ça.
Fait,
parce que les enfants fait, aussi, ils sont quelquefois pas responsables des réactions qui peuvent être hyper agressives, par exemple, parce que ça nous refait jouer quelque chose de notre propre enfance.
Ouais.
Alors comment faire ? Prendre soin de soi ?
Oui, et surtout aussi pour comprendre qu'en fait, derrière la colère, il y a toujours de la tristesse, de la peur et des regrets. Et ce qui est important quand on est fâché, quand il y a une dispute avec les enfants ou avec son conjoint, c'est justement de faire un temps mort et de prendre la responsabilité et peut-être d'écrire. Moi, la méthode que j'utilise, c'est que j'écris une lettre, ce que j'appelle une lettre de sentiment. En fait, je passe en revue la colère, la tristesse, la peur et les regrets. Et quand on fait ces quatre étapes-là, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est qu'il y a des sentiments positifs d'amour qui reviennent comme par magie. Et donc, pour résoudre les disputes, ça peut être vraiment intéressant de suivre ce cheminement. Je ne sais pas si j'ai 2-3 minutes, je peux peut-être vous partager une histoire justement par rapport à ça pour que les auditeurs comprennent bien comment fonctionne ce principe. En fait, on était au sport d'hiver il y a 17-18 ans. Julie avait 5 ans à l'époque, Antoinette avait 3 ans et Louis avait 1 an. Et le deuxième jour, on se rend compte, Corinne et moi, que Julie a fait beaucoup de progrès depuis l'année précédente. Et on décide que j'irai skier avec Julie sur les grandes pistes pendant que Corinne resterait avec les deux plus jeunes sur les petites pistes d'enfants. On passe une magnifique après-midi, Julie et moi. C'est la première fois qu'on se retrouve à skier tous les deux comme ça. 5 heures arrivent, les remontées mécaniques ferment. On se dirige vers la voiture pour aller retrouver Corinne et les deux plus jeunes. Et là, Julie voit une terrasse de café. Elle me dit « Papa, j'ai envie d'un chocolat chaud. » Je lui dis « Écoute ma chérie, on n'a pas le temps maintenant. Désolé, maman nous attend. » Et là, elle s'est mise à insister. « J'ai envie d'un chocolat chaud tout de suite, j'ai soif maintenant. » Vous voyez un peu l'idée ?
Et là, oui, tout à fait. Oui.
Et là, j'ai vraiment ressenti la colère monter en moi et j'ai un peu crié sur elle. Il faut vous dire que c'est pas quelque chose de très habituel chez moi, j'aime pas, on fait pas ça. On pense, Corinne et moi, que quand on est violent avec un enfant, on enseigne de la violence et pas de la discipline. Pour nous, frapper un enfant, c'est lui enseigner une méthode de résolution de conflit qu'il ne pourra jamais utiliser quand il sera plus grand, sauf si c'est Trump. Et on voit que c'est ça, les limites de ça quand même. Mais donc, frapper, on n'a jamais fait, mais même crier, c'est une forme de violence. C'est quelqu'un 4 fois de votre tête qui vous crie dessus, c'est pour amener un climat de peur. Alors, en même temps, je suis complètement convaincu de ça, mais j'ai mes limites, je suis loin d'être parfait, donc là, je crie. Le problème, évidemment, de la violence, c'est que ça marche à court terme. C'est sur le long terme que ça crée des dégâts, mais sur le court terme, c'est très efficace. C'est pour ça qu'on l'utilise. Sinon, si ça ne marchait pas, on le saurait. Malheureusement, ça marche. Mais donc, Julie monte et ne dit plus un mot. Et là, je suis là dans la voiture, vous voyez, je suis là, mais évidemment, c'est moi qui ai raison, et c'est elle qui a tort, vous voyez, mais je ne suis pas très bien avec ça. Mais en même temps, ce n'est pas non plus un incident majeur, donc l'ambiance n'est pas terrible, mais n'est pas non plus dramatique. Corinne et les deux plus jeunes arrivent. L'ambiance change immédiatement et puis j'oublie. C'est un petit incident. Le soir arrive, Corinne me demande d'aller chercher une couette pour un des enfants qui est en train de s'endormir. Je n'y vais pas dans la seconde où même elle me le demande. Elle me le redemande sur un ton que je trouve un tout petit peu insistant et là, hop, de nouveau, colère. Heureusement, là, elle me laisse dans ma grotte, dans ma fameuse grotte masculine. Hein. On ne parle plus, on s'est temps mort, on reste chacun de son côté. Et on s'endort un peu comme ça. Vous voyez aussi un petit peu, hein, ça arrive, hein. Il n'y a pas que chez nous, hein, je pense. Le lendemain matin, je me réveille encore un petit peu tendu comme ça. Corinne le remarque immédiatement et là aussi, très beau cadeau de sa part, c'est qu'elle n'essaye pas de me faire parler en me disant c'est quoi le problème, etc. Donc elle ne me pose aucune question. Et même elle prend les enfants pour aller chercher du pain, pour me laisser un peu d'espace. Donc c'est très sympa de sa part. Et moi de mon côté aussi, j'ai un peu réfléchi, je me dis c'est bizarre, 2 fois dans la journée hier, c'est pas normal, il doit y avoir quelque chose. Et donc là, je me dis, il faut que je fasse cette lettre, cette fameuse lettre de sentiment pour résoudre les disputes. J'ai pas tellement envie, hein. C'est pas un truc qu'on fait de gaieté de cœur, mais je sais que c'est ma discipline que je me suis imposée, donc je le fais. Donc je commence ma lettre. Chère Corinne, je suis même pas sûr, Corinne, j'en ai marre que tu me demandes tout 24 heures sur 24, avec tout ce que je fais, t'es pas encore contente, va voir avec un autre pour voir s'il serait mieux. Vous voyez, donc les sentiments amoureux à ce moment-là, il y en a pas grand chose, mais bon, c'est comme ça, je l'écris, je fais confiance au processus. Et puis une fois que la colère s'apaise, donc je m'interroge et je passe à la tristesse. Et qu'est-ce qui me rend triste là-dedans ? Je me pose la question, qu'est-ce qui me rend triste ? Pas trop. Pourquoi j'écris sur Corinne ? Qu'est-ce qui me rend triste ? Je ne vois pas. Puis je repense à Julie alors. Qu'est-ce qui me rend triste là-dedans ? Pourquoi est-ce que j'écris sur Julie ? Qu'est-ce qui me rend triste ? Et là, le jus de mon orange est vraiment sorti. Là, j'ai commencé à pleurer sur ma feuille. Et le jus de mon orange, c'était quoi ? Mais c'est tout simplement que moi, je n'ai jamais skié avec mon père. Je n'ai jamais fait de sport avec lui. Je n'ai jamais joué au foot. Tout simplement, fait un tour à vélo dans la rue avec lui. Et pourquoi est-ce que j'étais en colère vis-à-vis de Julie ? Mais tout simplement parce que je me disais, mais elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a, celle-là. Moi, si j'avais ne fût-ce que skié une demi-heure avec mon père, j'aurais été le plus heureux des petits garçons de la Terre. Et là, on skie toute une après-midi ensemble. Là, on passe des vacances ensemble, tous les deux, toute une après-midi. Et plutôt que de me dire, oh papa, c'est le plus beau jour de ma vie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train de pinailler pour un chocolat chaud. Vous vous rendez compte de l'ingrate que je suis en train d'élever, là ? Mais Julie, elle trouve normal de skier avec son père. Et c'est ça qui est normal. Et je n'ai pas à lui faire payer le fait que moi, je n'ai jamais skié avec le mien. Mais pour ne pas lui faire payer ça, j'ai besoin de prendre la responsabilité de ce que je ressens. parce que sinon le risque c'est de rejeter la faute sur elle et de continuer ainsi la chaîne. Et vous voyez, une fois que j'ai ressenti ça, bien évidemment la dispute avec Corinne se termine, parce qu'après je finis le processus avec la peur de les avoir baissés, le regret d'avoir crié, et puis évidemment que je retrouve tout l'amour que j'ai pour Corinne. Et je lui écris, je dis, je suis vraiment désolé, je t'aime et j'adore t'apporter toutes les couettes que tu veux, t'es une femme géniale, et puis voilà. Et vous voyez, quand ça se résout en deux minutes, ça. Mais il faut prendre le temps de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. C'est très, très important.
La vie est un art.
Dans les relations parents-enfants, c'est différent, non?
Oui, mais c'est là où ça peut être intéressant. De nouveau, c'est... On parle beaucoup des stéréotypes et de sortir les enfants des stéréotypes. Il y a des mouvements qui veulent imposer, qu'on ne met plus de couleurs aux enfants, etc., de les laisser choisir leur sexe même ou leur genre. Et effectivement, enfin, c'est évidemment, l'idée n'est pas du tout d'imposer un modèle de société à qui que ce soit. Mais l'expérience que j'ai, ce qui est assez marrant, c'est de comprendre aussi, de répondre peut-être aussi, d'être à l'écoute de nos enfants et de voir comment ils réagissent. Mais c'est assez marrant, et je ne pense pas que j'ai forcé ce trait-là chez mes enfants, peut-être, mais je pense pas. Mais autant, quand mes filles rentrent de l'école, elles avaient tendance plutôt à me dire tout ce qui s'est passé, ma copine me l'a fait ci, ma copine me l'a fait ça. Vous voyez, elle avait besoin d'exprimer son ressenti, ses émotions par rapport à ça. Autant, parfois, mon fils est rentré de l'école, comment ça va? Bien. Et c'était, alors, c'est pas qu'il ne veut, je ne veux pas l'empêcher de parler, évidemment, mais c'est aussi peut-être intéressant de respecter aussi qu'il soit prêt à parler quand il est prêt à le faire, mais pas de le forcer à le faire s'il n'est pas tout à fait prêt à le faire. Vous voyez, il y a aussi, par exemple, cette écoute empathique et bienveillante dont je parle dans le couple. Effectivement, une femme en a besoin dans sa relation. Elle peut voir à quel point, parfois, ça peut être difficile à faire pour son partenaire de vie quand elle voit la difficulté qu'elle peut avoir à écouter ses propres filles. À quel point parfois ça peut être difficile quand une fille vient, une ado vient reprocher des choses à sa mère, et aussi elle n'était pas encore contente, etc. Le réflexe des parents, mais beaucoup de mères va être, mais je fais déjà mille fois plus que ce que ma mère a fait pour moi et tout, elle n'était pas encore contente, quoi. Et donc évidemment, on va lui rentrer dedans, ça va être très difficile d'être en écoute empathique avec nos enfants. Le risque, si on n'a pas cette écoute-là, c'est que peut-être nos enfants ne vont plus venir nous parler. Parce qu'ils en ont marre, exactement comme une femme en a marre que son mari ne l'écoute pas, elle ne lui parle plus. Mais c'est exactement le même processus avec les enfants. Mais c'est pas facile toujours, parce qu'on n'est pas toujours disponible, parce qu'on n'a pas toujours le temps, parce qu'on est stressé soi-même, on a aussi nos vies. Et donc se faire entendre des choses qui ne sont pas toujours agréables de nos enfants, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment fondamental à mon sens.
L'adolescence, c'est souvent une période très difficile aussi pour certains couples.
Oui, parce que là aussi, c'est tout ce qui tout ressort, c'est nos parcours personnels qui ressort, nos vécus, nos blessures, la manière dont nos parents nous ont blessés, les manques qu'on a pu avoir, le fait qu'on n'a pas été aimé par nos parents comme on aurait souhaité avoir été aimé. Tout ça va rejaillir évidemment sur la manière dont on va réagir vis-à-vis de nos enfants. C'est d'autant plus compliqué aujourd'hui quand il est dans les familles recomposées aussi, quand il y a des fratries différentes, quand tu privilégies l'un plutôt que l'autre, etc. Enfin, donc ça, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Donc ça peut être magnifique, mais ça nécessite effectivement énormément de bienveillance, de communication, d'être vrai par rapport à soi, de dire vraiment ses besoins plutôt que de rejeter la faute sur l'autre, de nouveau, de prendre la responsabilité de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent.
Alors vous nous disiez dans la première émission, puisque nous sommes déjà à la troisième émission ensemble, Paul Devendre, que le couple ce n'était pas tout, il y avait d'autres réservoirs d'amour, et vous avez parlé donc de ce réservoir des enfants dont on vient de parler aussi, il y a le réservoir aussi spirituel dont on a déjà parlé, il y a les réservoirs d'amitié, c'est important tous ces réservoirs aussi, la transcendance, Dieu.
Mais le réservoir aussi, on peut peut-être parler d'un réservoir qui est aussi très très important, c'est les réservoirs d'amitié, l'amitié notamment de gens du même sexe. Et quand on est en couple, parfois on peut avoir tendance à se dire, mais maintenant qu'on est là, il faut qu'on fait toi deux. Vous voyez, pourquoi est-ce que tu vas voir tes copains ou pourquoi est-ce que tu vas voir tes copines? C'est pas la même chose, c'est pas la même énergie. On a besoin aussi parfois, vous voyez, que si je vais jouer au tennis avec un copain, c'est pas la même chose que si je joue au tennis avec mes enfants. Quand ils étaient jeunes, maintenant ils me battent, mais quand ils étaient jeunes, j'allais pas commencer à taper je vais pas donner le meilleur de moi-même. Alors que quand je fais un tour à vélo avec un copain, même si on fait pas de course, mais le fait d'être avec lui va m'aider à aller au bout de moi-même. Vous voyez, je vais pas lui laisser 50 mètres de plus. Vous voyez, il s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout. Mais oui, mais c'est un sentiment d'aller au bout de moi-même que je n'aurais pas si j'étais dans une autre forme d'énergie. En féminin aussi, on a besoin d'un échange d'énergie, de partage, de ressenti, de pouvoir vivre cette énergie-là, dans cette énergie féminine. Alors de nouveau, c'est un équilibre à trouver, hein, tous ces réservoirs, c'est ça que j'aime bien, et c'est un équilibre constant à trouver entre le temps qu'on a, quand les enfants sont petits, évidemment, qu'on va avoir peut-être mettre beaucoup l'accent sur ces réservoirs d'amour de nos enfants. Mais là aussi, vous voyez, l'amour qu'on donne à ses enfants n'a rien à voir avec l'amour qu'on donne à un conjoint. Et là aussi, si on n'est pas tout à fait heureux dans son couple, le risque, c'est qu'on demande une forme d'amour qu'on n'a pas dans le conjoint à nos enfants. Et ça, c'est pour ça que c'est tellement important aussi d'être bien soi-même dans sa vie personnelle, pour être sûr de ne pas demander des choses que nos enfants ne peuvent pas nous donner. C'est de leur mettre une pression un peu trop grosse sur leurs épaules.
Alors, pour conclure, si vous aviez à donner un conseil à un homme, puis à une femme qui vont se marier ou qui vont vivre ensemble, qui ne sont pas encore ensemble, quel serait le conseil le plus précieux que vous pourriez leur donner ?
Moi, ce serait de comprendre vos différences, accepter vos différences, comprenez vos différences, devenez bilingue, pratiquez autant le masculin que le féminin, comprenez cette magnifique complémentarité du masculin et du féminin. On n'est pas là pour, ce masculin et féminin ne sont pas là pour nous opposer, ils sont là pour nous rassembler et nous unir. Et apprenez de l'autre aussi, grandissez dans vos parts moins développées. Justement, c'est la présence de l'autre qui va vous permettre de grandir personnellement. Et puis surtout aussi, aimez-vous vous-même, acceptez-vous du mieux que vous le pouvez, parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vous-même, à votre conjoint et puis aussi à vos futurs enfants.
Merci beaucoup Paul Devendre. Moi, je peux dire qu'en vous voyant, je vois que vous avez aussi une harmonie entre votre part masculine et votre part féminine aussi.
Merci.
Un grand merci aussi de cette empathie, de cette bienveillance et en même temps de cette clarté de vos propos. Au revoir.
Au revoir.